Enregistrement numéro 3. Prologue. Sujet réflexion au soleil couchant. Le soleil se couche et je suis tout seul au milieu du ciel. Par-delà les vitres de l'avion, la terre et le ciel s'étendent en un vaste panorama, tout en couleurs et ombres mêlées, annonçant l'approche de la nuit. À l'ouest, un rideau de hauts nuages cache les derniers rayons du soleil, éclipsant tout derrière une lueur orange si intense qu'on la dirait émise par un néon. Tout en dessous, une brume côtière forme comme une couverture froissée et reflète la lueur du couchant. Quelque part, en dessous, s'étend la ville de San Francisco. Je suis sur le chemin du retour chez moi après un week-end de conférences dans le nord de la Californie, installé dans l'habitacle restreint et familier de mon avion personnel. Par habitude, je consulte les cadrans de mon tableau de bord, jette un regard au moteur, à l'horizon, et je retourne à mes pensées. Autrefois, il n'y a pas si longtemps, cette brume aurait été une protection pour San Francisco. À cette époque, tout juste une génération en arrière, les plus dangereuses des armes inventées par l'homme dépendaient de l'intervention humaine pour être mises en action. Ce soir, San Francisco est sans défense sous sa couverture de brume, à 30 minutes à peine des silos mystérieux cachant des armes au plus profond du sol ukrainien. Maintenant, sa seule sécurité réside dans la peur, l'équilibre de la terreur. Nous sommes en sécurité tant que la partie adverse ressent la même peur que nous. Lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 21, le verset 25. Et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées, selon la Bible Second. Ces paroles me reviennent clairement à l'esprit. Elles furent écrites il y a 2000 ans, mais elles décrivent le monde même où nous vivons aujourd'hui. Au verset 10 et 11. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Bible Second. La prophétie nous dit qu'un jour, tout ce sur quoi nous nous reposons disparaîtra. Le ciel lui-même sera plein de menaces, et des signes précurseurs de ceux qui se profilent apparaissent l'un après l'autre, tels les pavillons d'un navire de guerre flottant au vent. 11 000 pieds plus bas apparaît la vallée San Joaquim, vallée fertile où poussent vergers, champs de blé et de coton. Dans une trouée de la brume côtière, elle apparaît telle une carte miniature, le contour des fermes bien marqué par les lignes ferroviaires et les routes rectilignes où luisent les phares des voitures dans le crépuscule. Du haut de mon observatoire, dans le ciel, je vois les choses d'un autre œil. Les gens qui sont là, en dessous de moi, sont comme les voyageurs embarqués dans le même navire, navire magnifique, mais si fragile, naviguant sous vents et marées du temps et de l'espace. Et le navire file vers des dangers droit devant. Lisons Jérémie au chapitre 4, versets 23 à 26. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites, devant l'Éternel, devant son ardente colère. Bible Second. Ces mots ont été écrits 600 ans avant la naissance de Christ, mais ils décrivent un défi que va devoir relever le monde entier. Ce monde, cette magnifique vallée que les pluies du printemps ont fait reverdir et que les derniers rayons du soleil réchauffent, ces personnes qui s'assemblent autour de la table de dîner et qui échangent sur leurs rêves. Mais même alors, la crainte reste tapie au fond du cœur de bon nombre d'entre eux. L'avenir est peut-être plein de dangers potentiels. Leurs rêves sont peut-être désuets. En fait, en cette soirée, la vie de ces gens est probablement bien meilleure que celle qui les attend d'ici peu. Ainsi, presque sans s'en rendre compte, ils commencent à se tourner vers le rêve ultime que quelque part au-delà de ce monde existe une force capable de les aider. Ils regardent la guerre des étoiles et le jour d'après et font leur héros d'une étrange créature appelée E.T., comme s'ils étaient prêts à accepter l'aide de n'importe qui pouvant leur faire oublier leurs craintes. Pendant ce temps, le pape apparaît comme un personnage d'une importance mondiale, capable d'attirer des milliers de gens dans tous les aéroports qu'il visite. Tout à coup, une autre pensée me traverse l'esprit, terrible dans ses conséquences. Est-il possible que nous fassions partie de cette génération d'adventistes qui n'ont plus de temps devant eux? Pendant près de 150 ans, nous avons essayé de délivrer le message du retour du Christ à un monde où même les chrétiens déclarés ont en pensée repousser sa venue dans un avenir lointain. Jusqu'à présent, ils pouvaient se permettre le luxe de le faire parce que, si mauvais qu'aient été les événements, il y avait toujours un endroit où se réfugier, un endroit qui pouvait les accueillir. Ce soir, les refuges ont disparu. La sécurité qui a endormi notre conscience devant l'urgence a disparu également. Est-il possible qu'enfin le monde soit prêt à écouter le message adventiste? Je regarde vers la gauche, juste devant l'aile, les lumières de Modesto luisent dans le crépuscule. Peut-être 150 000 personnes vivent dans cette zone que mon regard embrasse. Combien d'entre elles connaissent la vérité sur l'avenir? Avons-nous réellement fait l'effort de le leur dire? Ou les laisserons-nous placer leur espérance dans E.T., la guerre des étoiles et le pape? Généralement, la nuit, je vole à plus haute altitude pour disposer d'un peu plus de temps et d'espace pour le cas où il y aurait un éventuel incident. Mais maintenant, mon altitude me semble inappropriée. 3 000 mètres plus bas, il y a des personnes dont le seul espoir de survie réside dans la seconde venue du Christ. La distance qui me sépare d'elles est-elle le sinistre symbole du fossé qui nous a séparés pendant des dizaines d'années? Un peuple béni qui connaît la vérité, qui voit le monde tout entier, mais à une distance telle que notre message ne lui est pas parvenu. Presque involontairement, ma main se pose sur la manette des gaz et la fait glisser vers l'arrière. Je descends, vois le paysage s'aplanir devant moi jusqu'à ce que je puisse distinguer des éléments de l'activité humaine. Une voiture qui se dirige vers la maison dans le soir qui tombe, un tracteur qui roule sur un champ et trace les derniers sillons de la journée. Droit devant, dans la nuit qui vient, une ferme se profile en un bouquet de petites lumières. Dans la lueur plus vive d'une lampe halogène, je peux deviner la lessive pendue sur le fil à linge, une maison grande comme une maison de poupée, un vieux camion à plateau. Cela ne dure qu'un instant et disparaît derrière moi. Humble détail de la vie des hommes. Qui le leur dira? Et il y a tant à leur dire. Partout on peut voir des signes que l'histoire s'accélère et que la prophétie se réalise. Des signes dans la vie économique, au niveau militaire, dans le monde de la religion. Apocalypse 13. Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque. Depuis des dizaines d'années, nous savons qu'un jour, la liberté sera mise en danger par le contrôle central de l'économie. Mais les gens se rendent-ils compte de la proximité de cet événement? Sont-ils au courant de tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un scénario classique comme décrit dans Apocalypse 13? et que tout cela est déjà en place? En pensée, je revois la scène où, un jour d'été, dans le sud de la Russie, je discutais avec le chef du bureau moscovite d'un grand magazine financier. Nous parlions d'une réunion qui venait d'avoir lieu quelques jours auparavant, au cours de laquelle 11 des principaux pays débiteurs de la planète avaient évoqué l'éventualité du non-remboursement de leurs dettes envers les pays occidentaux. Avec sur le visage une expression d'un calme que j'ai rarement vu, il m'a dit « Si ça signifie ce que ça veut vraiment dire, la structure économique mondiale tout entière doit s'attendre à un choc majeur pour bientôt. Si cette prédiction se réalisait, les États-Unis pourraient en un instant se retrouver dans la position d'imposer un diktat économique à la plus grande partie du monde. J'en expliquerai la raison un peu plus loin. Pour l'instant, il suffit de dire que si Dieu permettait ceci, Apocalypse 13 pourrait s'accomplir du jour au lendemain. Tout ce qu'il faut pour que cela soit réalisable est déjà en place, comme les pièces détachées d'une machine toute rassemblée dans l'attente d'un événement qui mettrait le feu aux poudres, dans l'attente du moment où les anges relâcheront les vents. Et que dire du monde de plus en plus dangereux dans lequel nous vivons? En ce moment, le communisme et le capitalisme rivalisent pour la suprématie sur la planète. Et le conflit atteint maintenant l'Amérique centrale, à moins de 2000 kilomètres de Brownsville, au Texas. La lutte s'est mondialisée et tout le monde s'accorde pour dire qu'elle représente un énorme danger. Mais savent-ils aussi qu'il s'agit là de l'accomplissement de la prophétie? En 1903, une dame âgée du nom d'Ellen White a décrit avec une précision surprenante une situation que beaucoup pensent pouvoir appliquer à la révolution bolchevique, événement qui n'arriva que 14 ans plus tard. Elle a poursuivi en disant que l'esprit de la révolution s'étendrait peu à peu au monde entier. À une autre occasion, elle a dit que, dans les derniers moments de l'histoire mondiale, la guerre ferait rage. L'économie, les conflits sociaux, les tentatives de révolution mondiale, les risques de guerre. Il semble que tout se déroule selon un programme bien établi, comme si l'histoire suivait un script. Y a-t-il autre chose? Je repense à cette récente nouvelle visite du pape à l'étranger dans les pays occidentaux. Je me rappelle les journaux d'information, les milliers de visages tournés vers le pape dans l'espoir que le pontife romain apporte une solution à leurs craintes. J'ai vu cette scène se répéter en Pologne, au Costa Rica, au Canada et aux îles Salomon. Je l'ai vu à Anchorage, en Alaska et au Nicaragua. Apocalypse 13, verset 3. L'une des têtes de la bête semble blessée à mort, mais maintenant sa blessure est guérie. Alors toute la terre admire cela et elle suit la bête. Les mots tournent dans ma tête et y vibrent comme les moteurs de mon avion. Je ne peux rien faire d'autre que conclure, nous sommes vraisemblablement en train de nous approcher de l'une de ces rares époques majeures au cours desquelles la rivière de l'histoire sort de son lit, envahit d'autres territoires et change le cours tout entier des choses de ce monde. Quelque chose d'énorme nous attend, juste au-delà du voile de l'avenir. Les gens ne peuvent en distinguer les détails, mais ils peuvent le pressentir et des millions de personnes se demandent ce qui est en train de se passer. Nous n'avons vraisemblablement jamais eu pareille occasion d'achever l'œuvre de Dieu. Tout le montre, le rythme de l'histoire qui s'accélère, les signes dans le monde qui nous entourent, même les tâtonnements avides de millions de personnes qui pressentent, sans être vraiment capables de l'expliquer, que notre seul espoir réside dans un événement semblable au retour du Christ. Je suis persuadée que les gens sont prêts à écouter le message adventiste. Et pour favoriser cette chance qui nous est offerte, la technologie nous permet maintenant de relayer n'importe quelle information au monde entier en un clin d'œil. En d'autres termes, Les structures sont désormais en place pour nous permettre de mener à son terme l'œuvre de Dieu avec une vitesse incroyable. Mon regard se fixe sur le ciel qui s'assombrit autour de moi, étonné de la conclusion à laquelle je suis parvenu. Si tout cela veut bien dire ce que je pense que cela signifie, alors l'occasion dont nous rêvons se présente. Le ciel est à portée de notre main. L'histoire est prête, n'attendant que la réponse du peuple de Dieu. Et ceci m'amène alors à la pensée la plus formidable entre toutes. Tout ce qui est nécessaire pour préparer nos vies au retour du Christ peut être accompli en un temps très court. Nous savons ceci grâce à un événement qui a eu lieu au début de l'histoire adventiste. Peu de gens en sont conscients, mais il semble qu'à la fin des années 1850, l'Église a été à deux doigts d'être prête pour le retour du Christ. Un grand réveil balayait l'adventisme. Les anciens conflits étaient réglés, les différences entre croyants étaient cicatrisées. Même les pasteurs faisaient des confessions publiques et prêchaient la repentance. Apparemment, ceci avait créé une intense activité au ciel, car Ellen White décrivit des anges affairés en tout lieu pour préparer les cœurs incroyants à la vérité. Rapidement, le réveil atteignit le monde séculier. On vit se tenir des réunions de prière, le midi dans des endroits aussi inattendus que le quartier financier de New York, et des journalistes écrivaient des éditions spéciales pour relater la ferveur religieuse qui s'étendait au pays tout entier. Jusqu'à ce jour, les historiens sont dans l'incapacité d'expliquer ce phénomène. Il semble avoir pris naissance spontanément dans le monde laïque, sans cause nettement visible. Mais grâce aux écrits d'Ellen White, on peut avoir un magnifique aperçu de ce qui se passait au-delà du voile. Des êtres puissants se mettaient à l'œuvre pour se rendre en tout lieu, simplement en réponse à l'état d'esprit de réforme régnant au sein du peuple de Dieu. De manière tragique, la réforme fit long feu. Déçu de ne pas voir les choses se dérouler aussi vite qu'il l'aurait voulu, beaucoup d'adventistes abandonnèrent l'œuvre à laquelle ils s'étaient attelés. Et le travail ne fut pas achevé, et la guerre civile éclata et fit rage, et 500 000 hommes perdirent la vie dans des villes de triste réputation comme Chancellorsville et Gettysburg. Et l'histoire continua jusqu'au cauchemar du 21e siècle. Et nous avons constaté combien manquer une occasion peut être terrible. Mais au cours de ce réveil, de courte durée, Ellen White a écrit une affirmation qui nous montre qu'il est tout à fait possible de se préparer avec rapidité pour aller à la rencontre du Christ. Moins de 3 ans après le début de ce réveil, elle dit qu'il avait eu le temps nécessaire pour produire ses effets. En d'autres termes, en 36 mois, les enfants de Dieu auraient pu être prêts pour la parousie. Mais moins de 3 ans, cela signifie que le ciel est à notre portée. Il n'est pas un rêve lointain qui s'évanouit devant nous comme un mirage. Nous pourrions véritablement le vivre au cours de notre vie actuelle. Voilà maintenant 10 minutes que je vole à basse altitude, en ce bref laps de temps. La nuit est tombée complètement, gommant l'horizon, réduisant mon monde à quelques petites langues scintillantes. Ici et là, dans la campagne, c'est suffisant. Je repousse la manette des gaz vers l'avant pour retrouver de l'altitude. L'obscurité parsemée de points lumineux s'étalant sous moi. Je me stabilise à 7 500 pieds, mais sans réduire les gaz. Libéré de l'effort pour grimper, l'avion s'élance rapidement, droit devant, les hélices mordant l'air pour permettre plus de vitesse. La vitesse, voilà ce que je recherche. Soudain, j'ai intensément besoin de me retrouver chez moi. Je me rends compte qu'il est beaucoup plus tard que nous ne croyons. La situation militaire mondiale, l'étrange comportement de notre économie, le droit qui refait surface de pouvoir mêlé politique et religieux, même les conflits doctrinaux au sein de l'adventisme. Tout s'imbrique. Nous assistons à un scénario de fin des temps. L'histoire est en train d'essayer de donner naissance au retour du Christ. Le laisserons-nous avoir lieu? À l'altitude où je me trouve maintenant, je vois une fine ligne orangée qui s'estompe à l'ouest. En dessous de moi, la terre est enveloppée de ténèbres. Le crépuscule est là, et c'est le moment où l'on songe à aller dormir. Mais pour moi, cette soirée est différente des autres. Je suis adventiste. Nous sommes au crépuscule de l'histoire, et il est temps de se réveiller.